Il est 18h à Kinshasa, 19h à Beni, au Nord Kivu. Bienvenue à l'écoute de ce journal.
Radio Kapi.
Au sommaire, ouverture depuis cet après-midi à Genève des travaux de l'association du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Eve Bazaïba, y présente un exposé détaillé sur la situation humanitaire préoccupante en République démocratique du Congo. En Ituri, la situation sanitaire devient critique après les récentes attaques des rebelles des ADF dans les territoires de Mambasa. Presque toutes les structures sanitaires ont fermé, en plus du manque de médicaments. L'invité de ce journal est le coordonnateur du cadre de concertation de la société civile du Lualaba. Maître Shadrach Moukade plaide pour la réhabilitation de la route nationale numéro 39, Kolwezi-Dilolo. Encore une fois, merci d'être avec nous. André Mongou et Jean-Claude Siala assurent la technique. Et devant ce micro, Jean-Désiré Kanyama. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ouverture depuis cet après-midi à Genève des travaux de la session du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. C'est la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale qui participe à ces assises pour le compte du gouvernement congolais. Selon le compte X de son ministère, Eve Bazaïba y présente un exposé détaillé sur la situation humanitaire préoccupante en République démocratique du Congo, marquée par plusieurs décennies de crise. Elle revient sur le tableau particulièrement sombre de la situation dans l'est du pays, devenu le théâtre d'activités des groupes armés et touché par l'agression du Rwanda. Plus de détails avec vous, Alain Hirung.
Sur le compte X du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Eve Bazaïba indique que l'insécurité persistante dans l'est de la RDC constitue l'une des principales causes de la crise humanitaire, entraînant des déplacements massifs des populations et des graves violations des droits humains. La participation de la RDC à cette session du Comité des droits de l'homme représente une opportunité majeure de porter à la connaissance de la communauté internationale la réalité de la crise humanitaire que traverse le pays, ainsi que les besoins urgents des populations affectées. La ministre d'État a également rappelé devant la presse que depuis le 1er décembre 2025, le plan d'urgence humanitaire estimé à 1,4 milliard de dollars a été publié, prenant en compte plus de 7 millions de personnes ciblées. Toutefois, à ce jour, le niveau de financement reste largement insuffisant, avec une couverture qui ne correspond pas encore aux besoins exprimés.
Retrait ou redéploiement des troupes de l'AFC M23 dans certains villages du territoire de Lubero, au Nord Kivu, occupé depuis plus d'une année. Les autorités restent prudentes, mais un mouvement de retrait partiel, ces rebelles, est observé depuis la nuit de lundi à mardi dans cette partie du territoire. Selon des sources locales, ils se replieraient avec leur matériel militaire vers d'autres zones du même territoire. Que retenir de ce mouvement, Martial Papimoukeba?
Les villages vidés de la présence des éléments de l'AFC M23 sont Kipese, Munyakondomi, Ivatama, Ilambula, Luseke et Musimba, situés entre 15 et 25 km de Lubero Centre, chef-lieu du territoire de Lubero. Selon des sources locales, jusqu'à ce mercredi matin, leur campement et position militaire, occupés depuis plus d'une année dans ces villages, étaient complètement abandonnés. Ces troupes se seraient repliées avec leur matériel vers d'autres zones encore non identifiées du sud du territoire des Lubero. Toutefois, des sources sécuritaires indiquent que jusqu'à mardi soir, l'AFC M23 maintenait son dispositif dans le village de Katondi, sa dernière position avancée située à quelques kilomètres de la zone Tampo contrôlée par l'armée ougandaise et à environ 15 kilomètres de Lubero centre. Le colonel Anle Kiwewa, administrateur du territoire des Lubero, confirme ces informations tout en restant prudent. À ce stade, il est difficile de dire s'il s'agit d'un retrait, d'une relève ou d'un redéploiement pour renforcer d'autres positions, précise-t-il. Beni, Marcel Papimoukeba, Radio Okapi.
Et puis cette triste nouvelle qui touche le secteur de l'éducation. Le salaire du mois de février des 400 enseignants du territoire d'Idui au sud Kivu a été volé samedi dernier dans le parc national de Virunga au nord Kivu. Un total de 170 millions de francs congolais, soit environ 73 000 dollars américains, emportés par des hommes armés. Ces derniers ont attaqué le véhicule qui transportait les personnes mandatées pour aller chercher les liquidités à Boutembo, situé à environ 300 km d'Idjoui. Ce braquage, que déplorent les autorités sanitaires, remet en lumière le calvaire financier que vivent les populations de l'Est depuis la fermeture des banques en janvier 2025. Le récit de ce drame avec vous, Élisée Tikota.
Samedi dernier, des personnes mandatées par leurs collègues enseignants revenaient de Boutembo avec les salaires de février 2026. C'est lorsqu'ils traversaient le parc national de Virunga qu'ils sont tombés dans une embuscade tendue par des bandits armés. Ligotés, séquestrés, ils voient s'envoler plus de 170 millions de francs congolais. Un coup dur pour 400 familles d'enseignants de ces territoires. Comme à Goma ou Bukavu, les enseignants d'Idjoui reçoivent leur paye sur leur téléphone. Mais sur l'île, pas de liquidité. Pour retirer leur argent, ils transfèrent leur paye sur le compte d'un agent agréé pour les transactions mobiles. C'est lui qui délègue des personnes de confiance pour faire les déplacements à la recherche de liquidités sur des routes incertaines. Cet argent, je ne l'avais pas encore en main, mais il était déjà terminé, explique un enseignant de Bougaroula. Aujourd'hui, il ne sait plus quoi dire à tous ceux qui viennent souvent en aide à sa famille et qui attendent la paye de février pour être remboursés. La population lance un cri de colère vers les autorités. Elle demande combien de braquages de ce genre il faudrait d'abord pour que les banques rouvrent et que les circuits financiers soient enfin sécurisés.
Et puis la mesure interdisant la circulation sur la route nationale numéro 5 entre Uvira et les tronçons Sangé-Kabunambo dans le sud Kivu est entrée aujourd'hui à son 10e jour. Les conséquences économiques sont importantes tant pour les opérateurs que pour la population. Plusieurs produits périssables se sont détériorés, entraînant des pertes pour les commerçants, dont la majorité exerce grâce à des crédits remboursables assortis des taux d'intérêt élevés. Explication avec Jean Kassami.
C'est depuis le 16 mars que le commandement FRDC déployé le long de la RN5 tronçon Uvira-Runingu a pris la ferme décision d'interdire le trafic sur cet axe afin de contrer toute infiltration éventuelle de M23 dans la ville d'Uvira. Cette mesure sécuritaire engendre néanmoins des conséquences économiques fâcheuses. Ces commerçants victimes témoignent.
Il y a d'énormes pertes pour les commerçants qui aujourd'hui sont obligés de faire rentrer leurs marchandises qui étaient au niveau des Sangues, retourner dans la ville de Bukavu pour le Rwanda au niveau de la Tanzanie, Tanzanie au Burundi, Burundi vers Uvira. Ça, c'est un coup.
Un animateur de l'organisation non gouvernementale Machozi Araïa, qui signifie les pleurs des civils, s'interroge pourquoi les autorités militaires ne devraient-elles pas procéder autrement pour contrer les éventuelles infiltrations, laissant libre circulation des personnes et des marchandises.
La question ne doit pas être uniquement défensive. Pourquoi les forces régulières ne pourraient-elles pas aussi faire usage de stratégies intelligentes et offensives pour infiltrer et reprendre les zones occupées?
Jean Kassami, Radio Okapi, Bukavu.
En Ituri, la situation sanitaire devient critique après les récentes attaques des ADF dans les territoires de Mambasa. Dans les aires de santé de Badengaïdo et Bafouakoa, presque toutes les structures ont fermé leurs portes et le personnel a fui. Conséquence, plusieurs habitants n'ont plus accès aux soins et au moins 3 déplacés sont déjà morts. Dans les zones d'accueil, notamment à Niania, les structures sanitaires sont débordées et manquent de médicaments. Le médecin-chef de zone lance un appel urgent à l'aide humanitaire pour sauver des vies. Isaac Remouyopé nous en dit plus.
Au moins 12 postes de santé et 2 centres de santé sont actuellement fermés dans les aires de santé de Bandegaïdo et Bafouakoa après les attaques des ADF dans les chefferies de Bombo et Bandaka. Selon les médecins chefs des zones de Niania, plusieurs localités sont touchées, notamment Mavivi, Muchacha, Bandegaïdo et Pengue. Tous les personnels soignants ont fui. Les habitants restés sur place n'ont plus accès aux soins de santé. Dans les zones d'accueil des déplacés, la situation est également alarmante. Les structures sanitaires sont débordées et font face à une rupture de médicaments, alors que les malades, en majorité vulnérables, affluent en grand nombre. 3 déplacés sont déjà morts cette semaine, faute de moyens pour se faire soigner. Le médecin chef des zones de santé des Niania alerte sur une situation humanitaire très préoccupante et lance un appel urgent à l'aide. Docteur Joseph Pemanakoué.
Les structures sont fermées, et même les centres de santé. C'est pourquoi, au niveau de nos formations sanitaires ici à Niania, il y a eu un afflux de malades qui n'ont même pas de quoi se payer les soins. On a aussi des besoins de médicaments pour ces malades-là. Les autres aussi peuvent aussi appuyer l'alimentation de ces gens-là.
Signalons que la situation sécuritaire reste précaire, ce qui complique davantage davantage l'accès humanitaire dans la région. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Le mois de mars, dédié à la promotion des droits de la femme, va lentement mais sûrement vers sa fin. Mais ce mois ne se limite pas qu'aux célébrations, il est aussi celui de la conscience sanitaire. À la structure médicale de Smet Hospital de Kisangani, plus de 150 femmes ont répondu massivement à une campagne de dépistage volontaire du cancer du sein. Entre espoir et prise en charge, Jacques Moukonkole nous fait le point de cette initiative qui sauve des vies.
De 155 femmes enregistrées pour le dépistage, 14 cas pathologiques ont été détectés. C'est le bilan d'une journée marathon à l'hôpital de Desmet de Kisangani. Ici, le cancer du sein n'est plus un sujet de peur, mais de combat. Lors de la remise de résultats hier, la promotrice a salué le courage de ces femmes qui ont choisi la vie plutôt que le silence. Pour le docteur Landry Chulungu, manager de cette formation médicale, la régularité du diagnostic est la clé pour augmenter les chances de guérison. Une réalité qui confirme les patientes elles-mêmes. Témoignage d'une femme dépistée.
Moi, je me suis donné le courage là de venir et je me suis dépistée et tout va bien. J'encourage aux autres mamans de venir se faire dépister parce que le cancer s'est venu de dépister avant que la situation puisse s'aggraver.
Pour les cas dont l'évolution est jugée inquiétante, pas de panique. L'établissement a déjà scellé des partenariats avec des centres spécialisés pour garantir un traitement adéquat. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Par ailleurs, le monde a célébré hier 24 mars la journée des luttes contre la tuberculose autour du thème « Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose en RDC sous l'impulsion du gouvernement avec le soutien de nos communautés ». La coordination provinciale de la lèpre et de la tuberculose au Kasaï oriental appelle les autorités à construire deux locaux destinés aux détenus atteints de tuberculose à la prison centrale d'Mbujimayi afin de les séparer d'autres prisonniers. Cette demande intervient après l'identification de plusieurs cas lors de la deuxième campagne de dépistage menée auprès des pensionnaires de cette maison carcérale. Docteur Marcel Kazadi explique sa démarche au micro d'Esther Ndalafina.
Cette année, on a déjà organisé une campagne bord de la prison de Mbujimayi où on a eu des cas de tuberculose qu'on a pu mettre sous traitement. On va faire une autre campagne puisque nos malades de la prison sont ensemble avec les non-malades. Ainsi que nous sommes dit, on peut faire même trois fois ce dépistage au courant de cette année à la prison centrale de Mbujimayi. Nos autorités doivent pouvoir nous aider. La première fois, on a trouvé une cinquantaine de malades à la prison. Mais vous vous imaginez 50 personnes tuberculées qui dorment à côté de ceux qui ne sont pas malades, ils vont continuer à contaminer les prisonniers non malades. Ce serait mieux que nos autorités puissent trouver que cette histoire est très importante. Il faut qu'on puisse avoir ne fût-ce que deux salles en dehors de la grande salle où restent les prisonniers pour qu'on puisse les séparer de ceux qui ne sont pas malades. C'est un grand plaidoyer que nous lançons au courant de cette journée pour qu'on puisse nous construire ne fût-ce que deux salles en dehors des autres salles pour que nos malades prisonniers ne puissent pas contaminer les non malades.
La police nationale congolaise au Kasaï central a incinéré hier mardi un important lot de chanvre à la place de l'indépendance dans la ville de Kananga. Cette décision du Conseil provincial de sécurité vise à décourager les trafics de drogue dans la province. Mais l'opération suscite aussi des réactions négatives. Des environnementalistes dénoncent une incinération publique qui, selon eux, présente des risques pour la santé de la population et pour l'environnement. Le point avec André Katende Ngalamouloumé.
Ce lot de chanvre a été saisi à deux endroits, à l'aéroport de Kananga et sur la route du territoire de Luisa. Pour le vice-gouverneur du Kasaï central, Job Kouindama, cette incinération constitue un signal fort dans la lutte contre les trafics de stupéfiants. Il met en garde de toutes les personnes impliquées dans ces commerces illégaux.
C'est une pratique que nous continuerons à décourager dans la province et les services de sécurité sont mis à pied d'œuvre par rapport à ça.
De leur côté, les environnementalistes désapprouvent cette incinération publique. Ils estiment qu'elle peut avoir des conséquences sur l'environnement et sur la santé des habitants. Selon David Mwanda, ce type d'opération devrait se dérouler loin des zones habitées.
On ne le fait pas de cette façon qu'on l'a fait. On a rendu toute la population fumeuse de chanvre. Tout le monde a inhalé ces produits-là. Il faut avoir un site d'incinération approprié qui n'est pas tout proche de l'habitation.
Le vice-gouverneur précise que la décision d'incinérer ces chambres en public émane du Conseil provincial de sécurité. Selon lui, il s'agit de montrer à la population la détermination du gouvernement provincial à lutter contre les trafics des drogues. Kananga, André Katendengala Moulumé, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Bénin, le principal parti d'opposition n'en finit pas de traverser les turbulences. Déjà fragilisé par une vague de démissions, les démocrates s'enfoncent dans la crise avec une guerre de succession ouverte à leur tête. Dimanche 22 mars dernier, au terme du Conseil national, Eric Wandete a été évincé de la présidence par intérim, poste qu'il occupait depuis la démission de Boni Yayi le 3 mars dernier.
L'invité.
L'invité de ce journal est le coordonnateur du cadre de concertation de la société civile du Lualaba. Maître Shadrach Moukad s'exprime sur la dégradation très avancée de la route nationale numéro 39 Kolwezi-Dilolo, longue de plus de 450 km. Il s'entretient avec Paul Mounanga.
Maître Shadrach Moukad, bonjour.
Bonjour, monsieur Paulin.
Le tronçon routier Kolwezi-Dilolo est dans un état de délabrement très avancé. Quels sont les réels problèmes qui se posent sur cette route?
Le tronçon Kolwezi-Dilolo, c'est une route d'intérêt national. C'est une route à grande circulation parce que des engins lourds, c'est notamment des véhicules hauts, des véhicules trac. Il y a beaucoup de marchandises qui passent par cette route et également les carburants. Mais dans cette saison de pluie, je vous dis que c'est un calvaire pour les usagers de cette route. Ils souffrent. Ils ont vraiment fait les ras-le-bol à tout niveau pour que la solution soit trouvée parce qu'aujourd'hui, nous y sommes passés il y a peu. La route était un peu carrossable. La province du Lualaba a essayé de faire ce qu'elle pouvait, mais vous savez, la construction de cette route demande suffisamment de moyens et comme c'est une route qui est dans la compétence du pouvoir central au premier niveau, et donc ça nécessite pour que l'État congolais, le gouvernement central prennent des dispositions idoines pour aider les usagers de cette route et permettre que les communautés puissent utiliser cette route de manière à leur permettre favoriser les commerces, favoriser les trafics, favoriser également l'interconnexion entre les différents territoires que cette route relie.
Par cette route-là passent des marchandises qui proviennent d'où et qui partent vers où souvent?
Sur cette route passent des marchandises qui viennent de l'Angola et parfois des marchandises qui viennent de Kinshasa, qui passent par Kaemba, passé par l'Angola et ils viennent par Dilolo. Et ces marchandises, il y en a autant qui arrivent ici à Kolwezi. Il y a aussi les produits pétroliers qui viennent de l'Angola. Vous savez, il y a beaucoup de stations dans cette ville de Kolwezi ou dans cette province qui sont ravitaillées par les carburants qui viennent de Dilolo. Il y a aussi les commerçants ou les trafiquants privés qui achètent du carburant, ils font bonne fortune à travers ces commerces. Et donc, chaque jour, c'est des centaines de camions lourdement chargés de carburant et d'autres matériaux tels que des matériaux de construction qui viennent de l'Angola, les ferrons, les autres aciers qui viennent par cette route. Mais l'état actuel ne permet pas que les gens circulent librement. C'est une route, lorsqu'elle est bien réhabilitée, on peut faire un jour ou le lendemain. On est à Dilolo. Aujourd'hui, les usagers de cette route font plus de 3 semaines, voire même 1 mois, et cela par rapport à l'état totalement délabré.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour réhabiliter finalement cette route qui est la nationale numéro 39?
Cette route qui est la nationale numéro 39 nécessite l'intervention du pouvoir central. Le gouvernement central doit comprendre que c'est une route d'un grand intérêt pour les communautés de la province du Lualaba et il faut que les moyens et les mesures soient prises, que l'État s'y attelle. Qu'il mette en place un programme de réhabilitation et dans l'état actuel, il faut que cette route soit construite parce qu'il y a des ponts qui se sont effondrés et la route elle-même, quand vous voyez le bourbier et les trous qui s'y trouvent, il faut des moyens conséquents et ces moyens devront être mis à disposition du gouvernement ou du ministère des infrastructures au niveau national ou à travers l'office des routes pour reconstruire cette route et permettre une bonne circulation des usagers de cette route Kolwezi-Dilolo.
Certaines personnes se posent la question de savoir pourquoi est-ce que le gouvernement provincial de Lualaba ne réhabilite pas cette route qui est longue de plus de 450 kilomètres.
La société civile, au mois de septembre, nous avons fait quand même une tournée d'inspection pour voir différentes infrastructures, même la route. Nous avons fait rapport au gouvernement provincial avec des recommandations adressées au gouvernement central. Il est vrai, la province du Lualaba a fait quelque chose. On a vu, il y a des endroits où on a trouvé des engins du gouvernement provincial qui essayent tant bien que mal de réhabiliter, mais les travaux de réhabilitation partielle ne sont pas des travaux durables. Nous pensons il faut un programme de reconstruction de cette route. Et c'est pourquoi nous disons, étant donné que cette route RN39 est des compétences d'abord du gouvernement central, il revient au gouvernement central de prendre des dispositions pour désengorger la province.
Maître Shadrach Moukado, je vous remercie.
Merci, monsieur Paulin.
C'était l'invité de ce journal, le coordonnateur du cadre de concertation de la société civile du Lualaba. Maître Shadrach Moukado s'entretenait avec Paul Mounanga. Fin de ce journal qui a été supervisé par Livin Mwinga, Jean-Claude Siala et André Mongou ont assuré la technique. Jean-Désiré Kanyama vous l'a présenté. À vous, infiniment merci de l'avoir écouté.